marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire.
Le témoin de ce vendredi, Jacques Frémontier, la vie commence à 88 ans, enfin, ou à peu près.
Vivre aujourd'hui, pour des millions d'hommes, cela veut dire passer 8 heures par jour dans un pareil décor, sur la chaîne ou sur la machine. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Voilà pourquoi, dédaignant cette fois-ci les fausses séductions du design, nous allons vous parler de l'usine.
La voix de Jacques Frémontier au tout début des années 1970, quand son nom est devenu soudain très connu à cause de son enquête sur Billancourt. Alors aujourd'hui, la part française de la production de Renault est tombée à 17%. Chacun sait la fragilité de son ascendant sur Nissan. Mais à l'époque, Renault, c'était la forteresse ouvrière. C'est Frémontier qui a imposé la formule. Quoi qu'il pense aujourd'hui de son travail de l'époque, il avait mis au point un dispositif de l'interview qu'il reprendra dans 26 grandes émissions de télévision des années 68-73, Vivre aujourd'hui, Vivre ensemble, et aussi dans un grand livre, qui fut d'abord une thèse de l'École des hautes études, L'étoile rouge de David, une superbe enquête orale sur le mariage longtemps heureux de la judéité et du communisme. En 2019, Jacques Frémontier n'a plus de télévision. Il y a belle lurette qu'il n'est plus communiste. Il ne dira jamais qu'il appartient au peuple juif, mais la redécouverte de sa judéité lui a redonné de la juvénilité. C'est autour de ses 80 ans qu'il a publié les livres dont il est le plus fier. Privé à 87 ans de sa dernière tribune, il a décidé d'en créer une nouvelle, Octoscopie, un blog merveilleusement rédigé, admirablement illustré. Cécile Guilbert écrit dans La Croix: autant les jeunes scotchés à leur écran m'énervent, autant les seniors qui se mettent à l'informatique m'émeuvent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'Octoscopie ne traite longuement d'un voyage, d'un spectacle, d'un film, d'un livre. Les précipusés de la critique institutionnelle n'y ont pas droit de citer. Si Frémontier supportait encore le langage idéologique, on dirait qu'il s'attaque à la forteresse culturelle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jacques Frémontier, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, vous avez l'âge de Jean-Louis Trintignant. Alors, vous êtes un homme de plume, vous êtes un homme de caméra, vous êtes un homme de micro. Ça vous manque, le micro? Ça fait combien d'années que vous n'avez pas été devant un micro?
Devant un micro pour être interviewé, ça doit faire une bonne trentaine d'années.
Ah oui?
Oui. Vous savez, vieillir, c'est aussi perdre sa place dans le champ culturel. C'est aussi perdre son image, c'est perdre sa place chez les éditeurs, surtout. Et bon, il n'y a aucune raison d'en être amer, c'est la loi de la vie. Et il faut réagir, il faut dire que non, merde, on ne veut pas.
Octoscopie. Voilà. Votre premier livre traitait d'une expérience que vous avez connue. Oh, en Algérie, mais avant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ça s'appelle la colonie. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Eh bien, j'étais stagiaire de l'ENA. Mon premier stage, c'était à Gardaïa, dans le sud algérien, et j'étais adjoint au chef d'annexe de commune mixte, je crois que ça s'appelait. Et je vivais donc dans un bordj qui dominait le Sahara. Et j'y ai vécu une expérience tout à fait extraordinaire, puisque j'ai nomadisé avec les nomades Chamba sous la tente, j'ai fait une tournée avec la Légion étrangère, enfin, quelque chose qui, pour un garçon de 21 ans, était une expérience stupéfiante pour le Parisien que j'étais, le bourgeois que j'étais. C'était ahurissant. Et j'en ai tiré, des années plus tard, en 67, un livre que j'aime beaucoup, finalement, alors que j'en avais un très mauvais souvenir. Je m'aperçois en le relisant, puisque grâce à vous, j'ai relu tous mes livres, je m'aperçois en le relisant que c'est plutôt un bon livre. Et j'en suis stupéfait.
Ah, vous avez relu votre dizaine de
livres?
Oui,
je les ai tous relus, sans exception.
Alors celui-là tient le coup. L'ENA, vous dites? Ça veut dire l'école nationale d'administration. Oui, qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Ben, j'y suis entré, j'ose pas dire contre mon gré, ça serait absurde. Sortais de Sciences Po, j'ai hésité entre une bourse Fulbright pour partir aux États-Unis ou essayer d'entrer à l'ENA, puis j'y suis entré du premier coup. Et en plus, dans un très bon rang. Donc, j'ai cru que mon étoile s'était allumée, que j'avais un immense destin devant moi. Sauf que j'ai déchanté. Alors, pas déchanté la première année, puisque j'ai fait deux stages merveilleux à Gardaïa et à Metz chez le préfet André-Louis Dubois, dont on reparlera peut-être, qui est un personnage merveilleux.
Et mais... Moi, je veux bien qu'on parle d'André-Louis Dubois, parce que son nom est peut-être un peu oublié, mais c'était quand même un as de la mondanité. Ça veut dire que vous saviez vous tenir à table quand vous étiez
oui,
chez
exactement.
Lui.
Oui, exactement. On était quatre stagiaires et j'étais le seul qui savait. Donc, il a mis le doigt sur moi, si j'ose dire, et il m'a dit... voilà, donc j'ai connu Marie-Blanche de Polignac, Marie-Laure de Noailles, Francis Poulenc, René Clair, que sais-je encore.
Et vous n'étiez pas communiste à l'époque encore.
Loin de là. Là, j'étais un jeune bourgeois parisien, sans opinion politique.
Un énarque ne peut pas être communiste à l'époque de la guerre froide.
Si, il y en avait. Si, à l'époque, on sortait à peine des lendemains de la libération, où les communistes faisaient tout à fait partie de la communauté républicaine.
Enfin, un jour, un fils de député communiste des Bouches-du-Rhône, reçu à l'ENA, a été écarté.
Exactement. Il y avait une enquête de police avant qu'on y entre, et c'était assez cocasse. C'est-à-dire... On interrogeait votre concierge, et ainsi de suite.
Comme quand on reçoit la Légion d'honneur.
Peut-être, je n'ai pas la Légion d'honneur.
Vous n'avez pas la Légion d'honneur, vous êtes quand même dans le gousgou.
Oui.
La nuée rouge des personnalités qui comptent.
Mais parce que j'étais directeur de journal il y a 60 ans ou 50 ans. Et que
ça... Paris Jour, journalisme parlementaire.
Oh là là.
Bon, mais après 1968, je ne sais pas s'il se passe quelque chose en 68, vous n'êtes pas gauchiste.
Je ne suis pas gauchiste, enfin,
pas
faut distinguer. En 68 même, je suis exalté, enthousiasmé par la révolte étudiante. Et c'est comme ça que commence la forteresse ouvrière. Parce que je me dis, ces salauds d'ouvriers ont refusé, ont baissé les grilles de la place nationale devant les merveilleux étudiants. Donc, j'ai l'idée de ce livre.
Une enquête chez Renaud-Billancourt.
Une enquête chez Renaud-Billancourt.
Qui se termine, c'est la dernière phrase. Il faut cesser de rêver de la classe ouvrière.
Voilà. Je pense qu'il y a... Il y a deux phrases clés dans ce livre, c'est « Ne rêvons plus la classe ouvrière » et puis c'est « Je règle mes comptes, je paie le prix de ma conversion ». Et je crois que c'est la clé du livre.
On n'a pas choisi d'image ni de son venu de votre enquête, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, mais ici c'est un extrait de la case de l'Oncle Doc, un documentaire beaucoup plus récent.
Billancourt n'était pas une usine comme les autres. À la Libération, l'entreprise Renault est nationalisée, elle devient la régie nationale des usines Renault. À Billancourt, le patron c'est désormais l'État, qui va travailler main dans la main avec les syndicats pour gagner ce qu'on appelle alors la grande bataille de la production. La régie sera donc un outil de production performant, en même temps qu'un laboratoire pour de nouvelles relations sociales. Mais la lune de miel entre l'État patron et ses ouvriers ne dure pas. Pour les syndicats, CGT en tête, Billancourt devient le lieu privilégié de pression sur le gouvernement. On dit à l'époque qu'en Billancourt tous, la France s'enrhume.
Alors vous imaginez ce qui peut se passer. Les journalistes et les médias sont à la porte de l'usine. Donc cette proximité crée, encore une fois, une résonance, une importance. Et pour les responsables de Lille, comme ça a été mon cas, des moments difficiles, puisqu'on voit bien que par moments, le problème vous échappe. Vous n'avez plus la maîtrise de la situation, puisque l'enjeu dépasse l'île Seguin, dépasse les lieux où vous êtes.
Michel Auroy, un ancien responsable de Renault, dans ce documentaire de Frédéric Biamonti. Alors moi, quand j'étais jeune prof, hein, ça manquait pas. Une heure sur la forteresse ouvrière. Et maintenant, vous me dites... Je relis mes 10 livres, celui-ci, c'est une catastrophe.
Oui, ce qui est une catastrophe, c'est pas les interviews. Les interviews sont formidables, et je pense qu'il n'y a pas de précédent d'une enquête aussi approfondie, aussi large, dans une usine auprès d'ouvriers. C'est des interviews dont je n'ai pas à renier un seul mot, bien évidemment. Ce qui me déplaît très fort, c'est le langage de l'écrivain que j'étais. C'est-à-dire cette posture de domination qui lui permet de juger des gens en face de lui. Et de juger ce qui pourtant ne relève pas de son diagnostic ou de son jugement, qui est leur niveau de conscience de classe. Vous vous rendez compte, moi, bourgeois, parisien, qui n'ai jamais vu un ouvrier de ma vie avant, sauf le plombier qui vient réparer la cuisine, plongé tout d'un coup dans cette bouilloire qui est Billancourt, je me permets de leur donner les leçons en disant ils ont un niveau de conscience de classe, tel ou tel a un niveau de conscience de classe affusant. Enfin, c'est grotesque.
Je ne sais pas si vous écoutez les interviews d'aujourd'hui, vous connaissez le système de l'enrobé qui consiste à garder 15 secondes de la parole de celui qu'on interroge et à feuilleter avec des jugements de valeur venus non pas de l'écrivain mais du journaliste. Comment vous faisiez-vous pour interviewer ?
Il faut bien dire que quand j'arrive à Billancourt, je suis parfaitement novice. Oui. Je suis novice en interview, je n'ai jamais interviewé personne. Je suis... non, c'est pas vrai, j'ai interviewé déjà pour la télé. Je suis novice en classe ouvrière, je suis novice en sociologie ouvrière.
Alors, vous êtes humble ?
Je suis humble, exactement. Et il s'agit d'empathie. Empathie au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'il faut... penser dedans, souffrir dedans, sentir dedans. On a en face de soi quelqu'un qui a des désirs, parfois refoulés, qui a des envies, qui a des regrets, qui a des mémoires. C'est pas un robot qu'on a devant soi, c'est quelqu'un qui a un secret et que peut-être il va dire. Et le deuxième secret de l'intervieweur, c'est le silence. Le bon intervieweur est celui qui intervient peu et surtout qui respecte les silences de l'autre, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, si l'autre se tait, c'est comme chez le psychanalyste, il faut attendre que ça sorte. Et ça sort parfois. Parce que dans un livre dont on parle peu, qui est La vie en bleu, que je préfère de beaucoup à La forteresse, je les fais parler de leur sexualité, de leur estomac, de leurs vacances, etc. etc. C'est eux qui peuvent tenir le grand discours sur le coitus interruptus.
Souffrir dedans. 22 hommes sur un bateau, je ne sais pas si vous vous comptez parmi les 22 ou si vous êtes en plus.
Non, je suis en plus.
C'est un épisode de La vie ensemble, le réalisateur c'est Marcel Telade, et vous voilà sur le pont.
Julien, combien de tonnes de poissons y a-t-il maintenant ?
Maintenant, elle fait 14, 16, 18, 20... 21 tonnes avec les rascasses et les canivets.
Quelle température il fait ici dans la cale ?
Quand on travaille un bout de temps dedans, il fait moins.
Moins ?
Moins, ouais.
C'est pénible de travailler par cette température ?
Non, parce qu'on va finir, nous on n'arrête pas. Hein. On n'arrête pas de travailler, on n'a jamais froid. Quoi.
Jour et nuit ?
Jour et nuit, oui.
Comment est-ce que vous êtes devenu marin pêcheur ?
J'ai commencé à Terre-Neuve à 15 ans. C'est de père en fils, quoi. Mon père faisait Terre-Neuve. Mes frères aussi. Alors moi, j'ai suivi le mouvement. Quoi.
Ça vous tentait ? Vous aviez envie de devenir un pêcheur ?
Ah bah oui, parce que je voyais tout. Je voyais tous mes camarades y aller. Alors ils avaient toujours de l'argent sur eux, alors j'ai voulu faire comme eux. Bon, pareil. Hein. Nous, on n'a pas de métier à terre dans les mains. On fait qu'on va faire prouver à gagner un gros 80 000 francs par mois. Avec des enfants et une maison, c'est pas valable. Non, il y aura un fils, il fera jamais ce métier-là.
Pourquoi ?
Parce que nous, on connaît la misère du métier, alors on vous raconte que deux enfants l'auront menti.
Bon, en fait, de pont, c'est la cale. Hein. Je ferais mieux de me taire. La cale du Saint-Louis, en 73.
Oui, je garde un souvenir assez ému de ce tournage. Ça a été un tournage extrêmement rude. Je ne sais pas si vous imaginez, ça se passait aux environs de Noël et du Nouvel An. Nous sommes montés jusqu'aux îles Lofoten. Ça dure donc 11 jours, si j'ai bonne mémoire aussi. On l'a fait deux fois, une fois pour repérer et une fois pour tourner. On était dans des conditions de logement assez rudes, donc mal de mer, incroyable, mais... quelque chose de fort se passe. Ces gens sont fascinants. Ils sont le symbole de la classe ouvrière d'autrefois. C'est-à-dire qu'il y a son langage, sa culture, sa fierté, et en même temps, sa volonté que ça change. Leurs fils ne feront jamais ça. J'ai adoré ça. C'était bien. C'est une des dernières fois que j'ai fait ça. Je me suis beaucoup plu dans cet univers.
Nos auditeurs vont pouvoir imaginer, parce que le 16, nous recevons la classe de première du lycée de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, avec son professeur d'histoire, a préparé une émission sur la vie des racleurs d'océan des années 60-70, avant que la prospérité de Saint-Pierre ne s'interrompe. L'enquête orale, vous la systématisez quand vous vous inscrivez à l'école pratique des hautes études, que vous préparez un doctorat sur les juifs communistes, enfin sur cette époque qui a suivi la libération, où pendant plusieurs années il y a eu une sorte de transfert de la judéité sur l'idéal révolutionnaire, de mariage heureux, pendant quelques années donc, de la judéité et du communisme.
Oui, l'histoire orale, ça a été difficile à imposer à l'école des hautes études. Ça a une mauvaise réputation, vous le savez, vous qui êtes historien. On ne doit pas se fier à des sources orales, ou alors il faut qu'elles appartiennent à deux origines différentes, qu'on les mette en confrontation. Et cependant, je suis tombé sur une directrice de thèse intelligente, exigeante, ouverte, libérale, une américaine du reste, Nancy Green. Et ils ont tous accepté. J'ai eu un jury de thèse merveilleux, présidé par Michael Levy. Et ils ont tous accepté cette façon de procéder. Ils ont tous accepté, sauf parfois mes interviewés eux-mêmes. Parce qu'une fois le livre paru, j'aime mieux vous dire qu'il y a eu des réactions terrifiées et terrifiantes. C'est-à-dire que le stalinisme, où je croyais mort depuis longtemps, ressurgissait dans toute son horreur. Les types me disaient « Mais c'est pas croyable, mais quelle relation tu fais entre la religion et l'engagement politique ? Ça n'a aucun rapport, nous sommes tous des athées, nous nous foutons éperdument du judaïsme. » Sauf que, dans leurs interviews, ils disaient exactement le contraire.
C'est-à-dire que le passage par le communisme, c'était une modalité de reconstruction identitaire après la Shoah ?
Il y a de ça, oui, mais... Beaucoup avaient adhéré avant la Shoah. Il y avait de très vieux messieurs dans l'enquête. Il y en avait d'extraordinaires, du reste. Emmanuel Minck, qui avait fait la guerre d'Espagne dans l'unité yiddishophone, car il y a eu, dans la compagnie Botvin, pendant la guerre d'Espagne, une unité où on ne parlait qu'yiddish. Mais ce mariage entre le judaïsme et il est inscrit dans les textes, d'une certaine façon. Les prophètes promettent la justice sociale. C'est...
Les juifs communistes conservent le souci du livre, je me cite Jacques Frémantier, et ils le renient dans le livre. Alors on va en venir maintenant à Jacques Frémantier, jeune, qui s'occupe de culture et qui fait de nouveaux livres. On est dans le dernier millénaire maintenant. Souvenir quand même, sur votre platine, vous écoutez souvent la Callas, 58, la Traviata que vous avez vue récemment dans une autre version qui vous a enchanté,
oui,
au Théâtre des Champs-Élysées.
Exactement. Je viens de voir, oui, il y a quelques semaines, la mise en scène de Deborah Warner au Théâtre des Champs-Élysées, que j'ai trouvé admirable. De subtilité, de compréhension, de fidélité au texte.
C'est un des leitmotifs, on y viendra, de votre blog Octoscopie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jacques Frémantier, qui tient, l'ai-je dit, un blog qui s'appelle, l'ai-je dit, Octoscopie. Ce qui est bien avec un jeune homme comme vous, c'est que quand Vous évoquez, je sais pas, un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées en novembre avec Vanina Santoni, dans le rôle qu'a tenu autrefois la Callas. Le souvenir remonte. Quand vous visitez l'exposition Freud au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous dites, tiens, ça c'est curieux parce que c'est là que je venais quand j'étais gosse, pendant l'avant-guerre, et y avait les ateliers de la famille qui étaient là.
C'était pas des ateliers, c'était des bureaux.
Des bureaux. Avec le robinet, oui, eau courante, oui, à l'étage.
C'était tout dit, vous savez. C'était...
Comment vous dites d'ailleurs, du musée d'art et de l'histoire du judaïsme, il a cherché à retrouver notre trace, mais en l'effaçant.
Oui, comme beaucoup de musées, vous savez, les musées d'anthropologie, les musées qui veulent faire ressusciter des civilisations se contentent souvent de les ensevelir sous les cendres. Mais aujourd'hui, il y a un directeur du MASH qui est remarquable d'intelligence, qui est Paul Salmena. Et je trouve que les expositions ont pris un coup de jeûne, un coup de vérité impressionnant.
Mais je veux revenir sur votre famille. Là, le nom qui était inscrit des membres de votre famille dans leur bureau, c'est Friedman, c'est
oui,
pas
oui,
Frémontier.
Oui, je me suis appelé Friedman jusqu'en 1959. C'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai eu une carte de presse au nom de Frémontier dès 55 ou 56. J'en avais marre de l'antisémitisme bourgeois et populaire. Alors que, quand j'ai démissionné l'ENA, le directeur de l'ENA, qui était Henri Bourdeau-Fontenay, le père d'Elisabeth Fontenay, qui, Dieu sait, n'était pas antisémite, puisqu'il avait épousé une juive, m'avait dit « je vais vous recaser tout de suite ». Il m'a envoyé à la Compagnie française des pétroles. Je m'apprêtais à signer un contrat mirifique, lorsque le PDG me dit « Friedman, vous ne seriez pas juif par hasard ?» Je dis, écoutez, si vous voulez dire par là que les Allemands et Vichy m'ont traité de juif, c'est vrai. Sinon, j'ai jamais mis les pieds dans une synagogue de ma vie et le judaïsme est totalement étranger. Voilà, c'est typique de la France des années 50.
Mais vous êtes de moins en moins étranger parce que vous avez relu vos 10 livres. Les deux qui vous plaisent le plus, c'est les plus récents. Le nom et la peau.
Et La femme proscrite qui m'a sauvé la vie.
La femme proscrite qui vous a sauvé la vie. Vous étiez dans la montagne noire.
Oui.
Avec des papiers d'identité d'un
Exactement.
Autre.
Exactement. Nous étions réfugiés de toute la guerre à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Et puis, fin 43, la situation s'est considérablement aggravée. Le meilleur ami de mes parents a été arrêté en pleine rue par la Citroën à roues jaunes de la Gestapo. Et mon père a considéré que la situation devenait trop dangereuse et qu'il fallait qu'on se cache. Et mes parents ont été cachés pendant des mois dans une espèce de soupente au-dessus d'une épicerie, place de la Tour de Paris. Et moi, j'étais pensionnaire au collège, et c'est le principal du collège, Gaston Bourgeois, juste parmi les nations lui aussi, qui m'a fourni les papiers d'un élève qui était parti. Et avec Ginette, 22 ans, la fille des Rouquet. Nous sommes partis à travers cette France dite libre, et qui ne l'était pas du tout, nous réfugier dans un hameau de la Montagne Noire qui était entouré par des maquis. Sauf que pour aller jusqu'à la Montagne Noire, il fallait passer par Toulouse. Et qu'à la gare de Toulouse-Matabiau, nous avons été arrêtés par les feltes gendarmes, qu'il a fallu que je montre mes faux papiers. Mais là, tout se joue en un quart de seconde. Et il m'a laissé passer, il m'a pas dit « baisse ton pantalon ». Et je suis vivant encore près de 70 ans plus tard.
Mais dites-moi, Jacques Frémontier, ça ne nous explique pas qui est cette femme qui vous a sauvé la vie et qui est proscrite.
Oui, elle est proscrite pour une raison parfaitement imbécile. C'est-à-dire que dans ce maquis, dans ce village, un mot perdu dans la montagne, et dans la montagne noire, il fait froid même à la fin du printemps, ma mère se met dans la tête que mon père couche avec cette jeune femme, alors qu'il n'y a aucune vraisemblance. Hein, j'y suis retourné depuis, on est sous le regard de tout le monde, dès qu'on fait un pas, il y a toujours une paysanne qui arrive, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Bon. Et à la libération, ma mère nous interdit définitivement à mon père et à moi de la revoir. Et je me suis incliné jusqu'à la mort de ma mère, ce que je ne me pardonne pas. Donc une fois ma mère morte, j'ai fait les démarches qu'il fallait pour la retrouver, parce que je l'avais perdue, et pour la faire nommer juste parmi les nations.
Dites-moi, à vous entendre, il y a des gens suspicieux, il y a pas mal d'imbéciles aussi. Hein ? Je me permets de vous lire un texte d'André Bazin. André Bazin, c'est un critique.
Cinéma, oui.
De cinéma, partout. Cahier du cinéma, mais aussi bien le Parisien libéré, comme vous, vous avez fait de la presse populaire à Paris Jour. Macula réédite ses textes critiques. Et il dit, ça va peut-être nous ramener au contenu de ce que vous écrivez dans Octoscopie, l'exercice de la critique n'induit pas une supposée hauteur de jugement, conférée par un statut social. Rien n'est plus sot que de considérer la critique comme une spécialité, parce que dans bien des cas, ce serait plutôt une spécialité de la sottise.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Dans mon premier blog, il y a tout juste un an, je l'appelais Forteresse. Et je disais, de même que dans la Forteresse ouvrière, j'ai voulu défaire le mythe de la trois ouvriers qui ferment la porte aux étudiants merveilleux révolutionnaires. De même, aujourd'hui, je suis stupéfait par la médiocrité de la critique, qu'il s'agisse de littérature, qu'il s'agisse de cinéma, qu'il s'agisse de théâtre, qu'il s'agisse d'opéra. Et la critique la plus cotée, c'est-à-dire les meilleurs journaux, ceux qu'on lit finalement. Donc,
et là, vous aurez entendu, chers auditeurs, Le Monde, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Ou d'autres.
Que, oui, il y en a d'autres. C'est, hélas, un privilège largement partagé.
Mais alors, comment faites-vous vous avez insisté sur un mot, respect du texte. Parce que ce que vous détestez au théâtre, au cinéma, c'est les cabotins.
Oui.
Alors, les cabotins, c'est Michel Galabru, Louis Funès, ou tel metteur en scène contemporain qui substitue sans raison sa vision au texte.
Ah oui, il y a eu un exemple récent, c'est Christian Lupin avec Procès de Kafka à l'Odéon, qui était un pur scandale. C'est tout d'un coup un procès qui à la limite se déroulait dans un univers catholique, qui avait Dieu sait combien de symboles christiques, ce qui est stupéfiant quand il s'agit de Kafka, mais qui surtout, comme le voulait autrefois la critique, réduit le procès à un épisode autobiographique, Les Amours avec Félix Bauer. Enfin, c'était la thèse d'Elias Canetti, mais elle a été totalement démolie par Martin Robert, par Walter Benjamin, par tant d'autres qui sont parfaitement...
Et le docteur Stéphane Braunschweig?
Le docteur Stéphane Braunschweig, ah oui, Braunschweig, oui, il est fils et petit-fils de psychanalyste, il a chaque fois une lecture psychanalytique des pièces. Alors, c'est pas toujours nul, hein, qu'est-ce que c'était? C'était son Macbeth était très bien démoli par la critique. Du reste, Macbeth, le titre du Monde, c'était
Le Monde, vous avez dit.
Un Macbeth sans cri ni terreur, je sais plus quoi. Enfin, c'était une critique d'une médiocrité rare. Alors que Braunschweig inventait une nouvelle lecture, c'était intéressant.
Bon, vous nous donnerez envie à tous de lire Octoscopie si, en plus, vous nous donnez un exemple de quelque chose que vous avez aimé récemment. Je crois que vous en êtes au numéro 28.
J'en suis au numéro 28.
Dans votre blog.
Voilà. Donc, de quoi ai-je parlé récemment? J'ai parlé de La Traviata, dont vous avez dû parler. J'ai retrouvé des livres anciens dont on ne parlait plus. George Eliot, Patrick White, c'est des gens dont personne... Enfin, il y a eu le livre de Menaouzouf, mais j'ai parlé de George Eliot avant Menaouzouf.
Oui. Cinéma, peut-être?
Au cinéma, alors oui, il y a un exemple récent de fausse route de la critique. C'est le fameux film Le roi et son peuple, là, ou Le peuple et son roi, je ne sais plus lequel.
Scheller.
Oui, où c'est historiquement absurde. C'est-à-dire que une exaltation sans nuance de la Révolution française, comme on en faisait au temps de mon enfance, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Il faut avoir une vision contradictoire, complexe. Alors, ignorance totale des massacres de septembre, ça n'a jamais eu lieu. Et puis, cinématographiquement, d'une faiblesse inouïe. C'est les effets spéciaux tous ratés, des acteurs qui malgré leur notoriété, jouent presque tous mal.
Vous ne nous avez pas encore dit beaucoup de choses sur ce que vous aimez, mais il faut vous lire dans Octoscopie. Puis je rappelle que vos derniers livres, La femme proscrite qui m'a sauvé la vie, c'est Au bord de l'eau, et La peau et le nom, ou Le nom et la peau. Oui, soyons précis, Jacques Frémontier, c'est chez De Noël. L'émission était préparée par Frédéric Martin, la réalisation Audrey Ripouille, la technique Philippe Duclos.